paraît que l'on vit tous dans un sous-marin jaune. Bonsoir, le nôtre navigue dans les eaux plus ou moins troubles de l'actualité du lundi au vendredi, excepté le mercredi, jour des enfants, pendant lequel nous devons nous reposer. Nous sommes de chaque thématique, qu'elle soit politique, économique, associative, étudiante ou navale, qu'elle soit nationale, locale ou sur un point égaré des eaux internationales. Sonar activé, périscope remonté, rien ne nous échappe. Ici Tiffen, votre commandant de bord pendant cette heure en eau profonde, et avec moi ce soir au poste de manœuvre, Rémi, Mathilde et Aminata. Ce soir, au programme du sous-marin, nous entendrons le sociologue Olivier Galland nous parler des jeunes, à l'occasion de sa venue aujourd'hui à Angers pour les assises départementales de la jeunesse. En milieu d'émission, Mathilde, tu nous livreras ton flash au niveau de la mer.
C'est ça.
Avec des infos dont nous aurions pu nous passer cette semaine. Germain du groupe Daria a lui aussi enfilé son scaphandrier pour nous parler de la soirée Rock for Calum ce soir au Shabada. Aminata, tu analyseras dans ton périscope la question du travail dominical.
Exactement.
Vu par les médias, comme chaque semaine. Comme chaque jour, en fin d'émission, vous retrouverez l'agenda de cette soirée et la bulle sonore. Ce soir, Mathilde est allée promener son micro dans les allées de mixité, demander aux Angevins ce qu'ils pensaient du climat ambiant. Mais une fois n'est pas coutume, bonsoir Rémi, on commence par toi. Non, ce n'est pas un billet d'humeur, c'est un éditorial économique, une explication qui commence par ce chiffre, 21 millions.
21 millions d'euros. 21 millions d'euros, voilà ce que Monsieur Varin, PDG de Peugeot, a failli recevoir en retrait de chapeau. Le principe est simple, tu restes 4 ans dans l'entreprise, tu licencies des ouvriers, et pour te motiver, tu sais qu'à la fin, tu touches ta petite retraite. Bon. 21 millions, ça ne représente que 2 années de rémunération du PDG de Renault-Nissan, c'est-à-dire en gros 20 très grosses et très belles maisons. Mais ça représente aussi 1538 années de SMIC. Faut imaginer quelqu'un qui aurait commencé à bosser au 5e siècle de notre ère, à la fin de l'Empire romain, et qui prendrait sa retraite aujourd'hui. Il y a bien sûr d'autres montants qui ont de quoi donner le tournis. 1,7 million d'euros en 2009 pour le patron de France Télécom, 4,5 millions pour le PDG de Total la même année. Bref. Pour éviter que les inégalités ne soient trop criantes, les gouvernants tentent donc d'imposer certaines règles pour limiter ces sommes astronomiques. Et c'est ainsi que naît la fameuse, que dis-je, la magnifique taxe à 75% sur les revenus dépassant 1 million d'euros. Bigre. Mais qu'est-ce que serait cette taxe d'abord ? Eh bien, ce serait une tranche. Une nouvelle tranche de l'impôt sur le revenu. Cet impôt, né en 1914, est dit progressif et non proportionnel. Un impôt proportionnel, c'est par exemple 17% sur le revenu, pour tout le monde, riche ou pauvre. Ça apparaît très équitable à première vue, 17% pour tous. Mais imaginez que vous gagniez 1000 euros par mois. Il ne vous en reste plus que 830 après les impôts. Mais si vous en gagnez 10 000, il vous reste encore 8300 euros. On peut encore vivre avec cette somme. 17% ne représente donc pas la même somme pour tout le monde. D'où la nécessité d'un impôt sur le revenu qui ne soit pas proportionnel, mais progressif. Jusqu'à un certain revenu annuel, vous ne payez rien. Puis, à partir de 6 000 euros annuels, vous êtes imposé de 5,5% sur ce qui dépasse 6 000. Puis, à partir de 12 000 euros par an, vous payez toujours les 5,5% sur 6 000 euros, plus 14% de ce qui dépasse les 12 000 euros. Ainsi de suite, jusqu'à la dernière tranche, établie à 45% et qui va de 150 000 à l'infini. C'est-à-dire que vous payez 45% de ce que vous gagnez au-delà de 150 000 euros. Récapitulons. Si vous gagnez 20 000 euros par an, vous ne payez rien de 0 à 6 000 euros. 5,5% de ce qu'il y a entre 6 000 et 12 000 et 14% de ce qu'il y a entre 12 000 et votre revenu, 20 000 euros. Si on fait le calcul, ça vous donne 330 plus 1120, total 1450 euros, soit 7,25% de votre revenu annuel. Mais là où réside toute l'originalité de la taxe de 75%, et qui fait qu'elle n'est pas un nouvel élément de l'impôt sur le revenu, c'est qu'elle est payée par les entreprises, et non par les particuliers. Vous êtes une grosse entreprise. Vous payez un dirigeant 3 millions, et bien vous paierez 75% de ce qui dépasse 1 million. Donc 75% de 2 millions, soit 1,5 million. Vous payez donc 1,5 million à l'État, plus les 3 millions de votre dirigeant. Du coup, vous y regardez à deux fois avant d'embaucher un obèse du fric. Oui, mais il n'y aura plus de grands patrons. Eh ben, s'il n'y a que l'appât du gain qui guide l'esprit de nos chers entrepreneurs, notre société est bien mal partie pour sortir de la crise.
Merci Rémi, et pour digérer tous ces chiffres, voici The Leisure Society, Fight for Everyone. Olivier Galland travaille sur la jeunesse depuis plus de 30 ans. Le sociologue est la référence dès qu'il s'agit d'aborder le sujet. Aujourd'hui, à l'occasion des assises départementales de la jeunesse à Angers, il a donné une conférence, puis a accepté de répondre à nos questions et de nous donner quelques nouvelles des jeunes, du jeune qui, vous allez l'entendre, n'est pas moins traditionnel que ses parents. Rencontre donc avec Olivier Galland, pas si pessimiste que ça. Alors d'abord, pour cerner un petit peu le sujet, j'aimerais que vous m'expliquiez à quoi on reconnaît un jeune aujourd'hui dans notre société.
Oula, on le reconnaît, quand même un jeune, physiquement on le reconnaît, normalement. Mais c'est vrai que les frontières d'âge de la jeunesse, c'est une question pas si simple que ça, parce que à quel âge commence la jeunesse, à quel âge elle finit. Voilà, alors est-ce que c'est les 25 ans? Mais pourquoi la jeunesse s'arrêterait à 25 ans et pas à 29? Bon, on voit bien que ces critères de frontières d'âge sont un peu arbitraires. Et au fond, ça revient à dire que la jeunesse, c'est plus un passage qu'une catégorie. Voilà, c'est le passage qui fait franchir un certain nombre de seuils de la vie qui mène à l'âge adulte. Alors, la fin de l'école, le début du travail, le départ de chez les parents, la formation d'un couple, la naissance d'un premier enfant, voilà. Tous ces seuils, ce sont ceux autour desquels se situe la jeunesse. Évidemment, le problème, c'est qu'autrefois, ces seuils, ils étaient assez synchrones, ils étaient franchis à peu près tous au même âge. Maintenant, non seulement ils sont franchis plus tardivement, mais en plus, ils sont un peu désynchronisés. Donc, on peut être à moitié jeune, à moitié adulte. C'est beaucoup plus compliqué.
Oui, ça fait 30 ans que vous étudiez la question de la jeunesse. C'est en 84 que vous publiez Les Jeunes. Oui. Justement, comment ça a évolué? Alors, vous dites que c'est plus aussi synchronisé qu'avant. Comment ça se fait?
Ça se fait que, si vous voulez, il y a eu une dissociation entre les parcours professionnels, enfin scolaires et professionnels, et les parcours familiaux. Par exemple, les jeunes étudiants quittent plus tôt leurs parents qu'ils le faisaient autrefois. Et pourtant, ils n'ont pas d'emploi. En tous les cas, ce n'est pas des actifs de plein exercice. Voilà. Mais comme les études se sont prolongées, que l'accès au travail est plus tardif, eh bien, les jeunes, ils ont gardé en réalité la même volonté d'autonomie par rapport à leurs parents que celle de tous les jeunes, et peut-être même qu'elle est plus, encore plus précoce, cette volonté d'autonomie. Et donc, de ce fait, ils cherchent les moyens d'être autonomes sans être totalement indépendants. Et alors, les étudiants, ils y parviennent, bien souvent, en occupant un logement différent de leurs parents, et en étant aidés souvent par leurs parents, financièrement, pour occuper ce logement.
Il y a une autre chose qui a bouleversé la jeunesse, c'est les technologies, les nouvelles technologies, l'importance des réseaux sociaux. Alors souvent, c'est pointé du doigt comme quelque chose de négatif. Puis il y a d'autres chercheurs comme Michel Serres qui pensent que c'est plutôt une évolution positive, que c'est quelque chose qui va dans le bon sens. Vous, c'est quoi votre regard sur ces nouvelles technologies par rapport à la jeunesse? Est-ce que ça la forme différemment?
Ah oui, tout à fait. Alors, notamment pour ce qui concerne l'adolescence ou même la préadolescence, parce que ce qui est nouveau, et notamment grâce à ces nouvelles technologies, c'est que les jeunes, très tôt, et de plus en plus tôt, acquièrent ce qu'on pourrait appeler une autonomie relationnelle. C'est-à-dire, ils communiquent avec leurs amis hors de tout contrôle des parents. Et ça, c'est une révolution, parce que dans les générations des années 50 ou 60 ou même 70, quand un jeune était à la maison et qu'un ami l'appelait, qui décrochait? C'est la mère ou le père. Voilà, donc il y avait un filtre parental sur les relations amicales qui était très fort. Ce filtre, il a totalement disparu. Donc ça, c'est une liberté nouvelle, une autonomie nouvelle pour les jeunes qui est très précoce et qui est très importante. Alors maintenant, positif, négatif, y a des deux, mais je pense que le positif l'emporte sur le négatif. Le positif, c'est que cette génération, justement, est une génération communicationnelle. C'est une génération qui sait et qui aime communiquer. Et ça, c'est très important dans la vie sociale. Savoir communiquer, être désinhibé, c'est très important. Les jeunes des générations passées étaient beaucoup plus inhibés. Ils avaient beaucoup plus peur, et ils étaient beaucoup plus malhabiles pour entrer en relation avec les autres. Et ça, tous ces nouveaux moyens de communication permettent de faire sauter un certain nombre de barrières sociales à la communication. Et donc ça, je crois que c'est très positif. Alors évidemment, il y a aussi des aspects moins négatifs, moins positifs. C'est que avec ces nouveaux moyens de communication, avec Internet, se joue une sorte de scène sociale de l'adolescence. C'est-à-dire, bien souvent, on se met en scène sur les réseaux sociaux, on met en scène ses relations, ses goûts, etc. Et ça, parfois, ça peut avoir des aspects un peu moins positifs, parce que cette mise en scène peut s'accompagner parfois aussi de stigmatisations qui peuvent blesser certains. Mais enfin, les jeunes ont quand même, les jeunes ne sont pas naïfs du tout, la plupart d'entre eux quand même ont conscience à la fois des bienfaits mais aussi des quelques dangers d'Internet.
Est-ce qu'on peut parler d'une culture jeune ?
Oui, je pense qu'on peut parler d'une culture jeune, effectivement, parce que c'est-à-dire une culture, si vous voulez, qui rassemble les jeunes au-delà des clivages sociaux qui peuvent les séparer. Parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs jeunesses, et qu'être jeune ouvrier ou jeune étudiant, c'est pas la même chose. Mais malgré tout, je crois que ce qui rassemble ces jeunes, c'est justement cette culture communicationnelle, cette culture relationnelle, c'est-à-dire de mettre au premier plan des valeurs les relations qu'on peut avoir avec les autres et avec les proches. Voilà. Ça, je crois que c'est très important, et je crois que tous les jeunes partagent ce goût pour les relations avec les pairs.
Alors, François Hollande a fait de la jeunesse un de ses thèmes de campagne en 2012. Ça veut dire que les jeunes ont un poids dans la société ?
Non, ça voudrait plutôt dire qu'ils n'en ont pas beaucoup. Mais vous savez...
Pour quelle raison vous dites ça ?
Non, c'était un peu une plaisanterie, mais... Non, mais si les jeunes avaient vraiment un poids dans la société, il ne serait sans doute pas nécessaire d'en faire un objet de débat politique, si vous voulez. Ce serait naturellement que les jeunes participeraient à la société sans qu'il soit besoin de faire entrer le sujet dans le débat politique. Donc, c'est cette mise en avant de la question jeune dans le débat politique, c'est plutôt le fait, justement, que les jeunes sont mal représentés politiquement et que, jusqu'à présent, on s'en est sans doute pas très bien occupé parce que, malgré tout, le taux de chômage des jeunes depuis 30 ans reste très élevé en France, malgré tous les plans qu'il y a pu avoir, les multiples plans qu'il y a pu avoir, à droite comme à gauche, pour essayer de résoudre leurs problèmes.
Alors, quand on parle de génération sacrifiée, on a raison de le penser ?
Je pense que c'est excessif. Je pense que c'est excessif parce que quand on parle de génération sacrifiée, on compare cette génération-là à une génération qui a connu un destin exceptionnel, qui était la génération qui a connu sa jeunesse dans l'après-guerre. C'était une période exceptionnelle parce que c'était la période de la reconstruction avec des taux de croissance de 5 à 6%. Voilà, et on est revenu à l'étiage. On ne connaîtra plus jamais, enfin, ou très probablement, des taux de croissance de cette ampleur dans la société française. Donc, si vous voulez, la comparaison est un peu faussée. Alors, il faut regarder les choses sur le long terme. Et sur le long terme, si vous voulez, la situation n'est pas si défavorable que ça aux jeunes qui poursuivent des études de plus en plus longues en moyenne. Parce que la structure des emplois, contrairement à ce que croient beaucoup de Français, se déforme plutôt vers le haut. C'est-à-dire, il y a de moins en moins d'ouvriers, il y a de plus en plus de cadres moyens ou intermédiaires ou d'employés. Voilà, il y a une tertiarisation de l'économie qui est quand même plutôt favorable sur le moyen terme aux jeunes et aux jeunes qui poursuivent des études. Donc le problème n'est pas tellement, enfin, est moins celui de la jeunesse en général que des jeunes qui n'ont pas de diplôme. Parce qu'avec cette tertiarisation de l'économie, le fait de ne pas avoir de diplôme devient un handicap de plus en plus important.
Est-ce que les jeunes ont raison d'avoir peur de l'avenir ?
Ben, ils ne devraient pas avoir peur de l'avenir. Ils ne devraient pas, parce que, au fond, la jeunesse, c'est précisément la période de la vie où on devrait avoir plein de projets, plein de confiance en soi, plein de dynamisme. Mais en fait, si vous voulez, les études montrent que les attitudes des jeunes sont assez contrastées parce qu'ils ont peur de l'avenir pour la société, mais ils ont beaucoup moins peur de l'avenir en ce qui concerne leur avenir personnel. Ils sont beaucoup plus optimistes quand on les interroge sur leur avenir personnel que sur l'avenir de la société en général. Voilà, donc il y a un peu un contraste. Et en fait, cette peur de l'avenir pour la société, elle manifeste, je crois, une crise de défiance, surtout à l'égard des élites politiques et économiques. Et les jeunes pensent, au fond, qu'ils vont s'en sortir par leurs propres moyens, par leurs atouts personnels, par leur réseau de relations. Ils attachent beaucoup d'importance au réseau de relations sociales pour réussir dans la vie.
Et à quoi est-ce qu'ils aspirent aujourd'hui ?
Ils aspirent à des choses très classiques. Comme je dis souvent, les jeunes ne sont pas des extraterrestres. Hein, les jeunes sont de futurs vieux. Non, je plaisante un peu, mais si vous voulez, ils veulent un travail, ils veulent fonder une famille. Ils sont plutôt un peu plus traditionnels que les jeunes des années 60. Par exemple, ils sont tout à fait contre une vie sexuelle qui serait détachée du sentiment amoureux. Ils sont plutôt plus attachés que les générations précédentes à la fidélité dans le couple. Leurs aspirations principales, c'est de trouver tout simplement leur place dans la société.
Je reviens sur le classement PISA qui est tombé il y a 2 jours concernant l'éducation et qui pointe du doigt le fait qu'en France, on creuse de plus en plus les inégalités à l'école. Quel est votre regard sur la question ? Est-ce que vous l'avez constaté dans votre
travail ? Bien sûr. C'était l'objet en partie du livre qu'on a écrit avec 3 collègues économistes qui s'appelait « La machine à trier ». Qui montrait qu'effectivement l'école fonctionnait comme une grande machine à trier. On est resté en France sur un modèle scolaire extrêmement élitiste. Tout ça parce qu'en réalité, à la pointe de ce système, il y a les grandes écoles. Et qu'au fond, la culture du système éducatif, c'est de sélectionner les meilleurs. Et c'est ça qui l'organise fondamentalement. Et beaucoup d'acteurs de ce système éducatif pensent, plus ou moins implicitement, sans toujours l'avouer, que sélectionner les meilleurs est incompatible avec la volonté de faire réussir le plus grand nombre. Et donc on a un système éducatif extrêmement traditionnel, extrêmement académique, avec un poids extrêmement important des disciplines, une pédagogie très verticale, très peu participative, fondée beaucoup sur l'abstraction et les concepts, qui fait qu'une grande partie des élèves sont désarçonnés par tout cela et finalement connaissent l'échec scolaire. Donc c'est effectivement un grave problème pour la société française.
Une dernière question. Pourquoi est-ce que vous avez fait des jeunes votre thème de prédilection ?
Vous savez, la vie est faite de hasard et d'opportunités. Donc, quand j'ai commencé quand j'étais dans la fin de mes études, j'ai commencé à travailler dans un centre de recherche qui était dirigé par Jacques Delors. À l'époque, c'était dans les milieux des années 70, c'était le début de la montée du chômage. Et je me rappelle que Delors disait d'ailleurs « Ah là là, on va passer 1 million de chômeurs, ça va être la révolution en France ». Et on a lancé dans ce centre de recherche à cette époque une grande enquête sur les jeunes chômeurs. Voilà. Et donc j'y ai participé, ça m'a beaucoup intéressé. Et voilà, j'ai senti que c'était un sujet qui était assez peu exploré sociologiquement à cette époque, parce que Bourdieu avait dit « la jeunesse n'est qu'un mot », donc en gros la jeunesse n'existe pas. Donc moi je me suis dit « mais si, elle existe quand même ». Donc on va l'étudier.
Merci beaucoup Olivier Galland.
Bon, okay.
Voilà, les jeunes sont de futurs vieux, ça c'était pour nous, de la part du sociologue Olivier Galland. Pour s'en remettre, on écoute Dom la Nena, No Meu Pais.
Cresci, mas sei.
19h30 et des planctons, l'heure du flash au niveau de la mer, le contre-journal de Mathilde. On commence cette semaine avec une évasion qui nous laisse un peu bouche bée. Bougez pas, vous allez comprendre la vanne. C'est en Suède qu'a eu lieu l'incident. Un détenu s'est échappé de la prison dans laquelle il était détenu depuis plus d'un mois. Un peu moins d'un mois. A contrario d'une évasion normale, l'homme de 51 ans s'est rendu chez le dentiste à cause d'une rage de dents dont il souffrait depuis plusieurs jours. La prison ne semblant pas faire le nécessaire pour soulager son problème. Et tout comme bon détenu, celui-ci est ensuite allé se rendre à la police pour signaler sa disparition. Résultat des courses, les bonnes initiatives sont punissables, car le prévenu a été condamné à, attention, 24 heures de détention supplémentaire pour son évasion, les responsables de la prison ayant décidé de décompter le jour de l'incident du temps purgé en prison.
Si vous ne savez pas quoi faire ce week-end avec vos petits frères et petites sœurs, eh bien rendez-vous donc en Slovaquie pour visiter un zoo quelque peu insolite.
Un retraité de 70 ans un peu fou a eu l'idée d'ouvrir un zoo d'animaux, oui, mais en peluche. Tristouné de devoir se séparer des vieilles peluches de ses enfants, le septuagénaire a commencé à faire une sorte de collecte autour de lui pour ouvrir ce petit zoo dans un parc public. 70 espèces d'animaux exposées, sans cage, sans clôture, sans ticket d'entrée, ni heure d'ouverture et surtout sans bruit. Il a remporté un véritable succès dans le quartier. Enfin bref, le paradis des enfants et pour les adultes on repassera.
Certains appelleront ça un miracle.
Moi, j'appelle ça plutôt l'info what the fuck de la semaine. Les Chinois n'arrêteront jamais de nous surprendre, décidément. Les parents d'un nourrisson âgé de moins d'un mois, né avec une malformation congénitale, avaient décidé de stopper le traitement de leur fils, gravement atteint par la maladie. Acte de décès signé, le bébé est remis à une entreprise de pompes funèbres, chargée de l'incinération. Les informations chinoises n'ont pas précisé combien de temps le bébé a passé de temps là-bas avant que des employés découvrent qu'il était toujours en vie, alertés par ses cris, seulement quelques jours avant l'incinération. Infirmière renvoyée, médecin suspendu, une enquête a été ouverte pour trouver les failles de cette affaire.
Encore de l'emploi supprimé.
Au revoir, charmant livreur de colis, les drones prennent place. C'est en tout cas le projet du géant du e-commerce Amazon qui souhaite mettre au point un système de livraison par drone en 30 minutes. Ce projet qui pourrait bien voir le jour d'ici 4 ou 5 ans fait frémir les livreurs et réjouit les impatients.
C'était le flash au niveau de la mer de Mathilde qu'on retrouvera jeudi prochain. Dans un peu plus d'une heure, au Shabada démarra la soirée Rock for Callum, une soirée caritative initiée par le groupe Daria à la suite de sa rencontre avec Callum aux États-Unis en mars dernier. Germain, le bassiste de Daria, nous parle de cette rencontre. Germain, bonsoir.
Bonsoir.
T'es bassiste dans le groupe Daria.
C'est ça.
Et si t'es dans le sous-marin ce soir, c'est pour parler d'un concert un peu particulier qui aura lieu tout à l'heure au Shabada à 20h45. Mm-hmm. Une soirée intitulée Rock for Callum qui réunit Daria, Scarlett, Wang for Peace et Zenzile.
C'est ça.
Alors on va reprendre un peu l'histoire depuis le début. Tu vas nous expliquer qui est Callum, comment tu l'as rencontré, enfin comment le groupe l'a rencontré. En fait, en mars dernier, vous étiez en tournée aux États-Unis avec Daria.
Ouais, en mars dernier, on a joué aux États-Unis sur la côte Est d'abord, et puis après on est allé à Austin. Et on a rencontré Callum, qui est un petit garçon de 8 ans, et qui est le fils de Jay Robbins, qui lui est un musicien reconnu, en tout cas pas célèbre mais reconnu, et qui a joué dans beaucoup de groupes qui nous ont influencés. Et son fils de 8 ans, Callum donc, est atteint d'une maladie orpheline, le SMA type 1, qui est une atrophie de sa moelle épinière qui n'envoie pas de signal aux muscles et qui le rend handicapé à vie. Et on a rencontré cet enfant en mars dernier le lendemain d'un concert avec son père.
Jay Robbins, vous le connaissiez d'avant, vous aviez déjà travaillé avec lui?
Oui, on avait fait mixer notre album Open Fire, le deuxième album, par Jay Robbins. C'était enregistré en campagne en juin, et puis on l'avait fait mixer par Jay, et c'est comme ça qu'on l'avait rencontré.
Pour revenir sur la maladie de Callum, donc vous l'avez découvert en fait en mars, vous le connaissiez pas avant?
On savait que Callum était malade et on avait déjà en fait fait une petite action quand on avait appris à sa naissance qu'il était né malade. C'était une petite action comme ça sans prétention parce qu'on connaissait Jay. Mais là on l'a vraiment vu pour la première fois en mars.
Alors dans la vie quotidienne, c'est son handicap, ça lui permet, enfin comment ça se traduit?
Il a pour seul et unique mouvement ceux de ses yeux et de sa main droite, puisqu'il peut pas alors bouger le reste de son corps. Donc sa main droite lui permet de se déplacer, sa souris, de déplacer les éléments de contrôle. Il n'a pas encore de fauteuil d'ailleurs motorisé, mais voilà. Et donc sinon ses yeux et son cerveau qui fonctionnent très bien.
Donc il peut pas communiquer.
Si, il parle.
Il parle.
Oui, pardon. Ouais. Je parle de mouvements qui lui permettent de se déplacer, quoi. Sinon il parle. Ouais. Il parle très bien.
Alors justement, dans les interviews que vous donnez, vous dites que Callum c'est un petit garçon vif, intelligent.
Ouais, ça nous a surpris. C'est vrai que, on savait qu'il était malade. C'est la première fois qu'on le rencontrait, donc c'est voilà. Mais on est tombé nez à nez avec quelqu'un qui était quasiment plus drôle que nous et qui avait pourtant 20 ans de moins que nous, quoi. Parce qu'il a toujours été en relation avec des adultes, que ce soit le personnel soignant ou ses parents. Il a évidemment pas de potes à son âge, puisqu'il peut pas jouer dans les cours de récré. Donc il a un humour d'adulte, quoi, avec des 3e, 4e, 5e degré assez impressionnant.
Aux États-Unis, les frais sont pas remboursés, donc ses parents doivent tout avancer.
C'est ça. C'est aux États-Unis, la mauvaise santé est une malchance et tant pis pour toi. Donc c'est à eux de payer les frais d'hospitalisation de Callum, sachant que Callum peut aller à l'hôpital pour un rhume, quoi. Parce que ses poumons n'étant pas suffisamment musclés, il ne sait pas tousser, donc du coup le moindre rhume est pour lui une menace vitale, quoi.
Et pour l'instant, comment font ses parents pour financer tout ça?
Comme font tous les Américains aux États-Unis, ils empruntent et pour le restant de leur jour.
Alors, est-ce que ça peut soigner la maladie de Callum pour l'instant?
Non, c'est comme toutes les maladies orphelines, absolument incurable. Pour la simple et bonne raison que c'est pas rentable de la soigner, puisque c'est pas un modèle économique, quoi. Donc c'est même pas traité par les laboratoires, c'est ça qui est terrible. Donc ce sera même pas soigné, en fait, du vivant de Callum, ça ne sera jamais soigné. Voilà, c'est aussi le drame de cette histoire, quoi.
Alors, donc, le concert de ce soir que vous avez décidé de mettre en place au Shabada, tout l'argent récolté sera envoyé...
Ouais, on reverse l'ensemble des fonds qu'on va récolter ce soir pour l'envoyer à ses parents. Après, il y a pas une application déterminée comment on sera utilisé cet argent, mais en tout cas, ça viendra aider cette famille qui dépense beaucoup pour son fils.
Alors le programme de la soirée, je le disais, il y a 4 groupes. Mm-hmm. Donc, est-ce que tu peux nous dire un mot sur le déroulement?
C'est Scarlett qui va ouvrir les ouvrir les hostilités avec à chaque fois dans chaque concert des petites surprises. On va essayer de se mélanger un peu pour montrer ce que fait le rock à Angers et puis montrer qu'on est potes, voilà, le montrer sur scène. Donc c'est Scarlett qui ouvre, ensuite c'est Wong for Peace qui est un groupe d'amis qui a supporté l'ensemble de notre évolution, nous avec Daria depuis longtemps et avec qui on partage beaucoup de moments. Derrière nous on monte sur scène pour un concert avec quelques nouveaux titres et surtout des titres que Jay a mixé. Et c'est Denzile qui termine, qui nous a fait l'honneur de venir gratuitement et solidairement sur cette soirée. Donc c'est Denzile qui termine avec ce qu'ils savent faire de mieux, c'est-à-dire de la musique et plutôt un set rock, pour une fois.
Juste un petit mot sur la tuite d'Aria.
Nous, on est en ce moment en train de composer quelques nouveaux morceaux qui nous amèneront, on l'espère, sur un nouvel album. On a plein d'idées pour ce nouvel album. On adorera que ce soit Jay qui l'enregistre. Voilà, c'est logique en fait dans l'évolution. On a fait beaucoup de dates cette année à l'étranger. On a joué donc aux États-Unis, on a joué en Allemagne, on a joué au Portugal, en Espagne, on a joué en Irlande, en Écosse, en Angleterre. On va essayer de continuer ça l'an prochain. On a potentiellement une sortie de disque en Angleterre qui va venir, donc voilà, on est vraiment sur à la fois la fin de l'exploitation de Red parce que c'est sorti en mars 2012 et donc voilà, ça a vécu, donc à la fois la fin de ça et puis l'envie de réécrire un nouveau disque
et retourner dans le Maryland.
Oui, c'est sûr, enfin voilà, c'est vraiment l'idée, même si quand on est allé à Baltimore, c'est là où vit Jay Robbins, on s'est rendu compte pour les fans de la série The Wire que c'était précisément ce qu'on y vivait à Baltimore, c'est bien délabré. Le studio de Jay par exemple, lui, il est vraiment à 500 mètres du pire quartier de Baltimore et voilà, mais ça nous empêche pas d'avoir envie d'y retourner, voir Callum, voir Jay, voir Janet, sa femme, et puis y jouer potentiellement.
Bon, en tout cas, l'actu imminente, c'est ce soir 20h45 au Shabada. Les places sont de 10€ à 13€.
C'est ça.
Et donc, c'est Rock for Callum avec Daria, Scarlett, Wong for Peace et Zenzile. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans le sous-marin, Germain.
C'est gentil.
Vous entendiez donc Germain du groupe Daria dans une interview enregistrée hier. On a un petit peu triché. Donc, Rock for Callum, on récapitule, c'est ce soir 20h45 au Shabada, 10€ avec la carte Shabada, 13€ sur place. Une soirée, 4 groupes, des surprises et surtout une bonne action. Tout de suite, pour vous mettre l'eau à la bouche, on écoute Daria, Deafening Times. We'll be right back.
vous êtes bien dans le sous-marin sur Radio Campus Angers, hop, une petite virgule qui passe. À présent, au poste de vigie, on retrouve Aminata et son périscope. Aminata qui, chaque semaine, décortique les journaux, analyse les infos. Et cette semaine, dans le monde entier, on manifeste.
Ils sont toujours là et ne sont pas prêts de partir. Les manifestants de cette fameuse écotaxe qui fait trembler le gouvernement, mais surtout qui paralyse les rues de France depuis 3 semaines déjà. Des nouveaux s'y mettent aussi, mais cette fois-ci ce n'est pas en camion mais à cheval. Ils manifestent contre ce qu'ils ont appelé l'équitaxe. À l'international maintenant, commençant en Ukraine. Ce sont des manifestants plus que déterminés qui, eux, se révoltent contre le système et le Premier ministre. Ces opposants à l'actuel régime souhaitent un rapprochement entre l'Union européenne et l'Ukraine. Et enfin, plusieurs manifestants thaïlandais demandent le départ de la Première ministre.
Mais dans ton périscope, en ce jeudi, tu vas en remettre une couche sur le travail dominical.
Et oui, c'est reparti. Depuis 2 mois, les travailleurs du 7e jour posent une colle au gouvernement. TF1, dans son journal du 2 décembre, décrit assez crûment la situation, le casse-tête du travail du dimanche. De même pour Aujourd'hui en France, qui définit ce débat de dossier empoisonné.
Un petit récapitulatif de la situation est nécessaire.
En octobre, les indignations de l'ancienne Bricorama avaient pris une telle ampleur que Jean-Marc Ayrault avait promis un rapport afin d'éclaircir la situation. L'ancienne criait à l'injustice face à ses deux concurrents directs, Leroy Merlin et Castorama, qui eux avaient la permission d'ouvrir le dimanche pendant que Bricorama restait sur le banc de touche. Ce lundi, Jean-Paul Bailly, l'ancien patron de La Poste, a remis un rapport sur le travail dominical. Ce rapport propose 3 grandes lignes. La première est d'accepter le travail du dimanche en contrepartie d'une prime salariale. Jean-Paul Bailly propose ensuite d'étendre les ouvertures exceptionnelles et enfin de faire des exceptions pour l'Île-de-France en termes de fréquence d'ouverture les dimanches. La presse en a fait des gros titres, c'est une, c'est première page en capitale ou en caractère gras. La nouvelle bataille du dimanche pour Aujourd'hui en France. Travail dominical, difficile bricolage pour la Dépêche du Midi. Une réforme à minima pour le Figaro.
Alors pour ou contre le travail du dimanche ?
Bah là, les avis divergent. En politique d'abord. Madame Filippetti, ministre de la Culture, considère que le dimanche doit nous servir à aller au cinéma ou à lire des livres. Marisol Touraine, la ministre de la Santé, est favorable à plus de souplesse. Et Brice Hortefeux, le vice-président de l'UMP, veut lui s'inspirer des Italiens et ouvrir certains magasins tous les premiers dimanches de chaque mois. Eh bien, c'est un peu le même cas dans les médias. Dans la presse, les avis sont divisés. Mais les avis convergent sur un point. Il faut changer l'ancienne loi. On avance un peu. Personne ne peut se satisfaire de la réglementation actuelle. Elle est ancienne, imparfaite et arbitraire, affirme Yves Tréard dans son édito du quotidien de droite Le Figaro. Absurde, incompréhensible, tous ces adjectifs suffisent à peine à décrire la situation du travail dominical, nous dit TF1 dans son journal du lundi 20h. D'autres ne peuvent imaginer travailler durant le jour du Seigneur, le quotidien catholique La Croix, bien sûr. Pour les chrétiens, il demeure le jour du Seigneur, où les communautés se rassemblent. Pour le Figaro également, nul ne conteste que le repos du dimanche doive rester, dans un pays à tradition chrétienne comme le nôtre, un droit fondamental. Pendant que d'autres voient déjà loin et sont déjà dans le futur, avec le développement des achats sur Internet, en ces temps de froid glacial et de gelée matinale. Quoi qu'il advienne, le commerce électronique fera bientôt de ce débat une vieille histoire, car elle désynchronise les temps avec un acheteur commandant dimanche, ce que le vendeur expédie lundi, pour les échos. De même pour la montagne du centre, le cadre spatial et temporel s'est modifié avec Internet qui bouscule les règles du commerce. Enfin, 2 journalistes dénoncent à travers leur article des moments de crise que traverse la France ainsi que le gouvernement. Il y aurait dans cette entrave à la liberté un non-sens absolu en période de chômage, affirme Jacques Camus dans son édito. On peut bricoler aussi, un peu comme font le gouvernement, mais lui, c'est presque tous les jours en ces temps-ci. On réjouit en lisant les phrases de Denis Domin dans la République, dans la Nouvelle République, pardon. D'ici à 2014, on espère qu'une loi soit établie afin de clarifier la situation.
Merci Aminata pour ce périscope et à jeudi prochain. On termine le sous-marin avec votre agenda de ce soir. On répète, dans 1 heure, c'est la soirée Rock for Calum au Shabada. Daria, Scarlett, Funk for Peace et Zenzile de 10 à 13 euros si vous voulez écouter de la bonne musique tout en faisant une bonne action. Sinon, la Galerie 5 de Belle Bay propose une visite nocturne et gratuite de l'exposition Une leçon de ténèbres à 20h. Au 400 coups à 20h15, Ghost Dog, la voix du samouraï de Jim Jarmusch dans le cadre de la semaine de cinéma en langue anglaise. À 20h30, à la salle Claude Chabrol, ce sera la pièce Tag. À la même heure, au Quai, Frédéric Ferrer vous propose une performance conférence théâtrale sur le pôle Nord de 5 à 8 euros.
Enfin, au T-Rock à 21h30, ce sera un concert de Kafra et un set de Lisa Moon. Voilà, il est l'heure pour nous de lâcher l'immersion aux manettes ce soir. C'était David. Et derrière les micros, Rémi, Mathilde, Aminata. Vous pouvez nous réécouter en podcast sur notre site internet www.radiocampusangers.com ou demain en rediffusion à 13h. Tout de suite, vous retrouvez Turbulence, l'émission des groupes locaux animée par Marion et Robin qui reçoivent ce soir 4 crises, le gagnant du tremplin Buzz Booster. Avant de remonter à la surface, on vous quitte avec la bulle sonore. C'était le 23 novembre au centre des congrès Mixité, réunissait différents acteurs pour parler égalité et lutte contre les discriminations. Mathilde y a promené son micro. Merci à vous d'avoir embarqué dans le sous-marin. Passez une très bonne soirée à l'écoute de Campus. On se retrouve demain, 19h. Allez, bisous.
Je trouve que permettre au public de venir rencontrer des associations, c'est toujours de très très bonnes idées. Voilà. Ici, on est effectivement autour du solidaire, de la mixité, donc. Mais le fait d'être en centre-ville, je trouve que c'est un choix qui est fort, puisque souvent, ces problèmes de mixité, on les retrouve dans les quartiers périphériques. Moi, j'ai bossé à mon plaisir, donc je suis d'autant plus sensible. Viennent parler de ça en centre-ville et que les gens ils viennent faire leur course de Noël, mais en même temps, ils ont cette possibilité de venir nous voir et il y a eu beaucoup de passages. Donc ça marche.
Quand on voit aujourd'hui tout ce qui peut se passer, les propos qui ont été tenus, notamment par des élus, et puis certaines manifestations à la suite de la loi proposée sur le mariage pour tous. Donc je crois qu'il faut vraiment qu'on réponde à tout ça et qu'on réponde avec d'autres associations. Et donc le fait d'être là avec des associations, ça me paraît important d'être ici aujourd'hui. Et puis de se battre ensemble contre le racisme, contre l'intolérance, contre la xénophobie, contre l'homophobie, contre malheureusement beaucoup de choses.
Est-ce que vous pensez qu'actuellement on a besoin de revenir à des valeurs, à se battre pour quelque chose?
Plus jamais. Je crois qu'il ne faut pas lâcher, il faut continuer de s'indigner. Mais ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est important de se battre, c'est dommage de se battre, parce que ce n'est pas un verbe que j'aime, mais de montrer qu'on est là, qu'on ne lâche pas. Il y a des gens qui font beaucoup de bruit, qui sont choquants, mais on peut être aussi en face, pacifiste, simplement par notre présence, dire qu'on n'est pas d'accord, qu'on veille. On sait aussi que malheureusement, il y a des gens qui sont de plus en plus individualistes, donc on se concentre un peu sur soi-même et sur sa famille. Les autres, ils se démerdent, quoi. Et puis, moi, déjà, je survis de parler. Beaucoup de choses très négatives, alors qu'il y a de très belles choses qui sont créées, un petit peu partout en France en particulier. On n'a peut-être pas une vision très objective. Enfin, du moins, j'espère.
We all live in a yellow submarine. Yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine. Yellow submarine, yellow submarine.